Deutsche Welle, Économie et développement.
Pour ou contre le revenu universel? Ce débat agite plusieurs pays qui ont lancé cette expérimentation. Une somme versée chaque mois sans condition de ressources ni obligation de travail. Alors comment est utilisé cet argent comme tombé du ciel? Un village kényan s'est lancé dans l'aventure et elle se révèle plutôt positive. Mais c'est avec un autre mot pessimiste que la chercheuse Alice Nicole Zinzingre qualifie les perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne, en cause notamment la trop grande dépendance de ces pays aux matières premières. C'est Claire-Marie Kostmann au micro, bienvenue. Imaginez, que feriez-vous si vous receviez pendant 12 ans l'équivalent de 20 euros par mois? C'est l'expérience vécue par une centaine d'habitants d'un petit village de l'ouest du Kenya. Notre correspondante Charlotte Simonard s'est rendue sur place.
Quelque part dans l'ouest du Kenya, nous arrivons dans un village dont nous tairons le nom, car il pourrait susciter bien des convoitises. Depuis 11 mois, tous les adultes sans exception bénéficient d'un revenu universel, 2250 shillings, soit environ 20 euros. Erico, infirmier modeste, voit déjà sa vie changer.
Grâce à cet argent, j'ai acheté quelques chèvres. Regardez, elles ont donné des petits. Et puis, je leur ai construit un abri. Mon business grandit.
Avec sa femme Nora, elle aussi bénéficiaire, l'ONG Give Directly a doublé le revenu mensuel du couple. Ils vivent aujourd'hui avec 80 euros par mois.
Je sais maintenant que mes enfants auront une vie meilleure que la mienne. Quand nous arriverons à la fin de ces 12 années de revenus universels, notre vie aura évolué, l'avenir sera bon.
Le couple compte agrandir la maison familiale et l'enduire de plâtre, car jusqu'ici les murs sont en tôle.
Voici ma nouvelle armoire. Je n'en avais pas avant. J'ai aussi acheté quelques tasses pour le thé. Et puis ici, regardez, nous avons acheté un matelas. Nous n'en avions jamais eu.
À l'origine de ce projet pilote, deux anciens étudiants américains de Harvard. Ils veulent croire au revenu universel comme solution pour sortir les populations de l'extrême pauvreté. Caroline Tetti est chargée des relations extérieures à Give Directly.
On cherchait un village pauvre qui serait représentatif de cette région où nous expérimentons le revenu universel. Le montant de 2250 shillings, soit 20 euros, a été calculé sur base d'un indicateur de la Banque mondiale et du gouvernement. Dans un village rural au Kenya, un adulte vit avec 75 centimes par jour. Multiplié par 30 jours, c'est ainsi que nous avons déterminé le montant mensuel.
Le principe, laisser le choix aux populations d'utiliser cette somme comme bon leur semble. Jusqu'ici, tous les bénéficiaires ont investi dans un petit business pour leur assurer un revenu à l'avenir. Malika, une mère de famille, nous accueille dans sa pharmacie. Depuis toujours, elle doit se battre pour nourrir ses enfants, mais les choses changent.
Give Directly a changé ma vie. J'ai boosté ma pharmacie grâce au Chama. 10 personnes m'ont donné la somme totale de 10 000 shillings.
Le Chama, un procédé typiquement kényan, une sorte de pot commun dans lequel chaque habitant met une même somme par mois. La cagnotte est donnée à l'un d'entre eux à tour de rôle, une manière de pouvoir investir dans un projet plus important.
Ces 2000 shillings en plus par mois, je les investis en achetant plus de médicaments. Ici, regardez, j'ai des sirops, ici j'ai des gélules. Quand les gens viennent, ils me donnent l'ordonnance. Si j'ai ce qu'il faut, je l'écris ici et je leur vends.
Au centre du village, à un hôpital modeste, c'est là que travaille Yacinta, une femme veuve, mère de 4 enfants. Elle fait principalement le ménage et gagne moins de 50 euros par mois. Le simple fait de se nourrir a toujours été un combat de tous les jours. Mais depuis qu'elle touche le revenu universel, Yacinta reprend espoir.
Mes enfants n'allaient parfois pas à l'école avant parce que je ne pouvais pas payer l'inscription. Mais maintenant, ils y vont tous les jours.
Jen est la directrice de l'hôpital. Elle travaille ici, mais n'est pas résidente au village. Elle ne bénéficie pas du revenu universel.
C'est une très bonne chose, parce que nous payons nos employés tellement peu. Cet argent améliore leur santé, leurs conditions de vie. Parfois, nous ne pouvons pas leur verser de salaire pendant plusieurs mois. Ils ont alors des problèmes pour envoyer leurs enfants à l'école, pour manger. Quand on ne peut pas les payer, cet argent compense l'absence de salaire.
Mais au départ, Jen ne voyait pas cet argent d'un bon œil.
Il y a beaucoup de rumeurs au sujet de cet argent. Certains disent que c'est de l'argent démoniaque, que nos enfants vont être enlevés, vont être sacrifiés. On avait peur. Si des choses comme cela arrivent à nos employés, ce serait terrible. Quand de l'argent arrive si facilement, c'est normal de s'interroger.
Cette expérience coûtera au terme des 12 années près de 500 000 dollars. L'ONG mise avant tout sur des donations. Caroline Tetti de GiveDirectly.
Ceux qui soutiennent GiveDirectly sont par exemple de grandes entreprises dans la technologie, comme Google, Nike, Facebook. Mais on a aussi toute une partie de dons qui provient de personnes généreuses. Elles donnent ce qu'elles veulent, 50, 100, 1000 dollars. Il y a des riches contributeurs qui donnent des millions.
Si le projet pilote est concluant, l'expérience pourrait s'étendre à 44 autres villages de la région. Charlotte Simonard, Anna Erobi pour la Deutsche Welle.
Qu'augure l'année 2018 pour l'Afrique subsaharienne? Alice Nicole Zinzingre est chercheuse associée au département d'économie de l'École des études orientales et africaines de l'Université de Londres. Elle se base sur le rapport biannuel du FMI, paru en octobre 2017, et les perspectives 2018, publiées en janvier par la Banque mondiale. Ce dernier rapport fait état d'une croissance robuste à venir pour la Côte d'Ivoire, 7,2%, le Sénégal, 6,9%, ou l'Éthiopie, 8,2%. Mais ces documents insistent aussi sur la fragilité de la reprise dans plusieurs États africains, en particulier les producteurs de pétrole. Ils dépendent de matières premières à la valeur trop fluctuante, explique la chercheuse.
Ce qui veut dire deux choses, c'est que la croissance de ces pays, des pays qui sont matières premières pour les exportations, est une croissance qui va se retrouver très volatile, très imprévisible. Et en particulier, également, les ressources des États sont des ressources qui vont se retrouver stables, puisque donc les ressources des États sont appuyées sur des exportations qui sont elles-mêmes très instables. Il est extraordinairement difficile d'appuyer une politique économique domestique d'un pays quand on ne sait pas combien d'impôts vont être collectés le mois prochain. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il est extraordinairement difficile pour les pays africains d'avoir des politiques économiques intérieures qui soient efficaces à partir du moment où leurs ressources fiscales sont caractérisées par une très très grande incertitude sur les revenus futurs.
Ce qui aggrave la situation, c'est que les gouvernements africains n'ont aucune prise sur les cours des matières premières.
La capacité d'influencer par les pays africains cette volatilité des prix est absolument nulle. Il y a eu des tentatives, autrefois, la Côte d'Ivoire, d'essayer d'influencer en se retirant du marché, par exemple, les prix internationaux du cacao. Ça a été absolument impossible, puisque même si un pays comme la Côte d'Ivoire est le premier exportateur d'une matière première particulière comme le cacao, elle n'a au niveau mondial absolument aucune capacité d'influencer ses prix. Et ça s'est soldé par un échec de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune possibilité d'influencer ses prix internationaux. Et encore moins maintenant, je dirais, puisque ce qu'on a appelé la financiarisation de l'économie mondiale fait que beaucoup de matières premières aujourd'hui sont traitées par les investisseurs internationaux comme des actifs financiers. Ce qui fait que les prix aujourd'hui des matières premières non seulement sont déterminés à l'extérieur effectivement sur des marchés du type bourse, etc., New York, Londres, etc., mais en plus sont traités comme d'autres types d'actifs financiers.
En plus d'être dépendants aux matières premières, les pays africains le sont aussi vis-à-vis des bailleurs internationaux comme la Banque mondiale ou le FMI. Alice Nicole Zinzingre déplore qu'ils payent toujours les conséquences des politiques prises à Washington.
Dans les années 80, au moment des grands chocs sur les prix des matières premières Les pays africains, comme tout le monde le sait, se sont retrouvés dans une très grande difficulté, donc sans difficulté fiscale. Comme les prêteurs privés internationaux s'étaient retirés du continent africain, les institutions financières internationales se sont retrouvées prêteurs à l'Afrique subsaharienne. Et on voit bien le cercle vicieux, c'est-à-dire que les flux financiers apportés par le Fonds monétaire et la Banque mondiale dans les pays africains ont été assortis, comme chacun sait, les fameux plans d'ajustement structurel et de stabilisation ont été assortis de conditionnalités pour mettre en place les réformes que chacun sait, donc libéralisation, etc., privatisation. Ce qui fait que nous avons un cercle vicieux assez terrible, je pense, pour les pays africains, qui est que, par ailleurs, leurs politiques économiques sont externalisées à Washington, si je puis dire. C'est-à-dire que la dépendance des matières premières crée également de la dette, de l'endettement structurel. Les pays sont structurellement dans des situations de très grande vulnérabilité à la constitution et au remboursement de leurs dettes, puisque, encore une fois, le niveau des rentrées fiscales est tout à fait incertain. Le fait d'être endetté structurellement, d'être en situation de dette structurelle, fait effectivement que ces pays sont dépendants pour leur financement, soit des institutions financières internationales type Fonds monétaire ou Banque mondiale, soit dépendants des marchés financiers internationaux. Ce qui fait, on le voit bien, que leur politique économique, même si elles étaient, si je puis dire, les plus pertinentes, les plus fines, les plus appropriées, sont des politiques économiques sur lesquelles, même si elles étaient faites par les meilleurs économistes africains, sont extraordinairement impuissantes, puisque de toute façon, elles n'ont pas énormément de capacité de pouvoir influencer les marchés financiers internationaux.
La Banque mondiale veut toutefois croire que le déploiement de politiques structurelles en matière d'éducation, de santé, d'emploi, de gouvernance et de climat des affaires devrait soutenir le potentiel de croissance dans la région. Reste à savoir si ce sera possible. Merci à Alice Nicole Zinzingre pour cette interview. Pour réentendre ce numéro d'économie et développement, allez sur notre site www.com/français, rubrique médiathèque. Merci pour votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine.